Voici la vie de Sainte Philomène, vierge, martyr, faiseuse de miracles. Pour bien comprendre la vie de Sainte Philomène, il faut d'abord connaître ce qu'étaient les catacombes. Vous savez peut-être qu'au début de l'Église, les empereurs romains et les juifs ont beaucoup persécuté les chrétiens. On compte en gros une dizaine de grandes persécutions. Et alors les chrétiens devaient se cacher pour célébrer le saint sacrifice de la messe et pour enterrer leurs morts. Ils le firent dans ce qu'on appelle les catacombes, qui étaient des souterrains dans lesquels on faisait des niches dans les parois pour enterrer les morts, ou bien dans lesquels on faisait de grands tombeaux pour les grands saints et pour les martyrs. Et c'est sur ces tombeaux, sur les pierres de ces tombeaux, qu'on célébrait la Sainte Messe, souvenir que l'on garde jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on dit la messe dans un autel où il y a une pierre d'autel qui contient encore les reliques des martyrs. On compte des dizaines de catacombes dans toute l'Europe. Par exemple, à Rome, il y en a quelques-unes, mais si on faisait le total de toutes les galeries, il y a des milliers de kilomètres de vrais labyrinthes dans lesquels les chrétiens pouvaient se cacher facilement. C'est seulement le 24 mai 1802, plus de 1500 ans après sa mort, qu'on a retrouvé la tombe de Sainte Philomène, car les catacombes romaines avaient été bouchées avec toutes les guerres, les bouleversements qui avaient eu lieu après les persécutions chrétiennes. C'est donc le 24 mai 1802 qu'on a retrouvé les restes qu'on appelle reliques de Sainte Philomène. Sur sa tombe, il y avait trois grosses pierres sur lesquelles il était marqué Philomena Pax Tecum, Philomène, que la paix soit avec toi. En plus de l'inscription, il y avait des emblèmes, des signes peints sur des tablettes. On pouvait voir d'abord peint sur ces tablettes une ancre, signe de l'espérance. Les ancres sont aussi parfois des signes de martyrs. On attachait ces ancres au cou des martyrs et on les précipitait dans le Tibre ou dans la mer. C'est ce qui est arrivé pour Sainte Philomène. Ensuite, on voyait des flèches, certaines tournées vers le haut, d'autres tournées vers le bas. Les flèches rappellent le martyr de Saint Sébastien et d'autres martyrs transpercés par les archers. Ensuite, on voyait une lance et enfin une palme. La palme, symbole des martyrs, de la victoire des martyrs. Elle tenait aussi un lys. Lys, emblème de la pureté et de la virginité. Dans ces reliques, on trouva un vase de terre qui contenait quelque chose de desséché. Et après analyse, on découvrit que c'était le sang séché de Sainte Philomène. Ensuite, les ossements, les cendres, le sang de la sainte furent soigneusement placés dans un coffret de bois qu'on scella en trois endroits. Et ensuite, on emmena tout cela auprès des théologiens, des docteurs de l'Église, et on constata que le crâne de Sainte Philomène avait été fracturé. On analysa les ossements et on put conclure que c'était les ossements d'une jeune fille d'environ 12 à 13 ans. Les reliques de Sainte Philomène furent ensuite transportées à Naples et puis à Mugnano. Les prodiges, les miracles, les guérisons ne cessèrent de parcourir toute sa route triomphale. On voulut mettre les reliques de Sainte Philomène dans le coffre de voiture durant le trajet. Impossible de faire avancer la voiture. On essaya plusieurs fois, mais il fallut que les reliques furent placées dans un endroit beaucoup plus digne pour que la voiture puisse avancer. Ensuite, ce fut une tempête formidable, une tornade, qui voulut renverser la voiture avec les reliques et toute la procession. Mais les prières des pèlerins rejetèrent cette ultime attaque du démon qui voulait empêcher le monde de prier cette sainte qui fera tant de bien et tant de miracles. Mais qui était vraiment sainte Philomène? Quelle avait été sa vie? C'était une grande inconnue. Il a fallu que la sainte apparaisse à bien des personnes, des religieuses en particulier, pour qu'elle raconte elle-même sa vie et son martyre. Ses visions, quelques-unes en tout cas, ont été reconnues par l'Église et on peut en déduire, en recollant ces morceaux, la vie de sainte Philomène. Voici ce qu'elle dit à une religieuse, sœur des douleurs de Marie. Ma chère sœur, je suis la fille d'un prince qui était le chef d'un état en Grèce. Ma mère aussi était de descendance royale. Comme ils étaient sans enfants, et tous deux encore adorant les idoles, ils étaient païens, pour obtenir un enfant, ils offraient continuellement des prières et des sacrifices aux faux dieux. Un docteur romain nommé Publius, qui est maintenant un saint dans le paradis, bien qu'il n'ait pas subi le martyre, vivait dans un palais au service de mon père. Il était chrétien. Voyant la douleur de mes parents, ému par leur aveuglement devant ces idoles et poussé par le Saint-Esprit, il leur parla de notre foi catholique et les assura que leurs prières seraient entendues par Dieu s'ils priaient le vrai Dieu. La grâce qui accompagnait ces paroles toucha le cœur de mes parents, éclaira leur esprit. Enfin, après bien des réflexions et l'aide de Dieu, ils reçurent le sacrement du baptême, ils étaient chrétiens. Et je suis né au début de l'année suivante, un 10 janvier. Et à ma naissance, ils me donnèrent le nom de Lumena, ce qui signifie « lumière ». Car j'étais né après la lumière de la foi qu'avaient reçue mes parents. Le jour de mon baptême, ils me donnèrent le nom de Philomena, c'est-à-dire ami de la lumière, puisque j'illuminais mon âme par la grâce du sacrement. La providence de Dieu a permis que la pierre tombale sur mon sarcophage soit expliquée en ce sens, bien que beaucoup de gens aient ignoré que c'était exactement la pensée des parents qu'il avait écrite. L'amour de mes parents était si grand qu'ils voulaient toujours que je sois près d'eux. C'est pour cela qu'ils m'emmenèrent à Rome avec eux à l'occasion d'un voyage que mon père devait faire parce qu'il y avait une guerre injuste dont il était menacé par l'arrogant Dioclétien, un empereur païen qui a tellement persécuté les chrétiens qu'on l'a surnommé l'exterminateur du nom des chrétiens. On pensait qu'il les avait tous tués. Mais plus il est tué, plus il y avait de chrétiens, car le sang des martyrs est comme une semence qui fait pousser d'autres chrétiens. Les sacrifices sont toujours quelque chose qui profite et que Dieu bénit. Arrivèrent dans la capitale du monde, Rome, et nous le rendîmes au palais de l'empereur qui nous donna une audience. Quelle merveille que le destin de la providence! Qui aurait pu deviner le mien? Tandis que mon père plaidait sa cause avec ardeur, cherchait à se justifier, l'empereur, lui, ne me quittait pas des yeux. Et à la fin, il dit ceci. Cesse de te tourmenter, père. Tu peux être parfaitement rassuré. Je ne vais pas te faire d'ennui. Au lieu de vous attaquer, eh bien, je vais te demander une chose. Je te laisserai tranquille à condition que tu me laisses épouser ta fille. Mes parents furent d'accord devant sa requête. Et de retour chez nous, ils cherchèrent à me convaincre que je devais être heureuse comme impératrice de Rome, impératrice du monde. Moi, je rejetais cela, sans aucune hésitation, en leur disant que j'étais devenue l'épouse de Jésus-Christ, que je voulais être vierge, comme la Sainte Vierge, pour donner tout mon amour à Dieu. Ce qui compte, ce ne sont pas les richesses, le pouvoir, les plaisirs, c'est plaire à Dieu, sauver son âme et sauver le plus d'âmes possible en les entraînant derrière nous par notre sainteté. Mon père s'efforça alors de montrer qu'une enfant de mon âge ne pouvait pas disposer d'elle-même et s'offrir comme vierge à Dieu. Il fallait obéir à son père et donc épouser l'empereur de Rome. De plus, c'était le seul moyen de pouvoir être en paix et de ne plus avoir d'histoire avec l'empereur. Il fallait donner, comme on dit, donnant, donnant. Lorsque l'empereur reçut ma réponse qui était négative, il la considéra comme un simple prétexte pour briser la promesse qui lui a été faite. « Amène-moi la princesse Philomène, dit-il à mon père. Je verrai si je peux la persuader. » Mon père vint vers moi, mais voyant que j'étais inébranlable, fermement décidé à être à Dieu, lui et ma mère se jetèrent à mes pieds en m'implorant. « Ô mon enfant, aie pitié de ton père et de ta mère, de ton pays, aie pitié de notre royaume. » « Non, ai-je dit, ne savez-vous pas qu'il est écrit dans l'Écriture, mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes ? Dieu et ma virginité, que je lui ai consacré passe avant tout. Avant vous, avant mon pays, mon royaume, c'est le ciel. Et je vous aime plus que d'un amour naturel. Je vous aime et je désire le ciel pour vous. Cet empereur est un empereur païen. Il persécute les chrétiens. Comment moi pourrais-je partager la vie et mon cœur avec cet homme ? Mes paroles les plongèrent dans le désespoir et la tristesse. Ils me forcèrent à aller devant l'empereur. Lui, de son côté, fit tout ce qu'il put pour gagner mon accord. Mais ses promesses, ses menaces même, furent sans résultat. Alors il fut saisi d'un violent accès de colère et, influencé par le démon, il me fit jeter dans la prison du palais et on me couvrit de chaînes. Croyant que la peur et la douleur, la honte, affaibliraient le courage que mon divin époux Jésus-Christ m'inspirait, il vint me voir tous les jours pour me forcer à le marier. Puis après avoir détaché mes chaînes pour me permettre de prendre la petite portion de pain, le petit verre d'eau que je recevais comme nourriture chaque jour, il renouvela ses attaques dont certaines, sans la grâce de Dieu, aurait été plus forte que moi. Mais Dieu, que je priais chaque jour, m'aida à conserver la pureté et la foi devant cet homme païen et pervers. Il ne faut jamais douter de la prière, de l'aide de Dieu, même si les tentations sont très fortes, pourvu qu'on ne les recherche pas soi-même. La prière nous permet de les surmonter, d'être vainqueurs et de sortir même plus fort et plus pur des tentations. Les échecs que l'empereur continua de rencontrer furent pour moi le commencement des tortures. Mais heureusement, la prière me soutenait, la mienne et la prière des autres chrétiens. Je ne cessais de me recommander à Jésus, à la très sainte Vierge Marie très pure. Mon emprisonnement durant 37 jours, lorsqu'au milieu de lumière céleste, je vis la très sainte Vierge Marie tenant son divin Fils dans ses bras et qui me dit ceci. Courage, ma fille, encore 3 jours. Après ces 40 jours de prison, et après 3 jours de douleur, tu vas entrer au ciel avec moi et mon fils. Mon cœur battait de joie à l'annonce que bientôt j'irai au ciel avec la reine des anges et Jésus, mais en sachant que 3 jours durant, j'aurais des supplices bien plus terribles à subir que ceux d'auparavant, je tombais dans l'angoisse et dans la crainte. Je pensais que le tyran allait me tuer. Mais la Sainte Vierge me dit avec sourire, « Courage, mon enfant, ne sais-tu pas le grand amour que j'ai pour toi? Sais-tu que tu as reçu le même nom que moi à ton baptême, le même nom que mon fils? Toi, tu t'appelles Lumena, ce qui veut dire lumière. Mon fils a dit, « Je suis la lumière du monde. » Et moi, Marie, j'ai un nom qui veut dire « Illuminatrice ». Alors ne crains pas, je t'aiderai. Maintenant, c'est l'heure de la faiblesse, de l'épreuve, de l'humiliation. Mais quand la souffrance sera là, la grâce et la force seront là. En plus de ton ange gardien qui est toujours à tes côtés, je te donnerai mon ange, Saint Gabriel Archange. Gabriel qui veut dire « force de Dieu ». Quand moi j'étais sur la terre, cet ange était mon protecteur. Eh bien, je te recommanderai spécialement à lui durant ton combat. Ces paroles de la Reine des Vierges me redonnèrent du courage et de la paix, et la vision disparut en laissant ma prison emplie d'un parfum céleste. Alors l'empereur, désespéré de me faire accepter ses désirs, il eut recours à des tortures pour me terrifier et m'amener à rompre mon vœu de virginité avec Dieu. L'empereur ordonna qu'on m'attache un pilier pour que je sois fouetté sans merci, tandis qu'on me lançait à l'oreille d'immenses blasphèmes. Puisqu'elle est obstinée au point de préférer à l'empereur, un malfaiteur condamné à mort sous la croix, qu'elle mérite un châtiment approprié. Le tyran, me voyant toujours aussi déterminé, bien que je ne sois plus qu'une plaie dans tout mon corps, ordonna qu'on me ramène en prison pour que j'y meure dans ses souffrances. Je souhaitais mourir pour m'envoler dans les bras de Jésus, quand 2 anges de lumière apparurent qui versèrent un baume mystérieux venant du ciel sur toutes mes plaies et je fus complètement guéri. Le lendemain matin, l'empereur arriva et, surpris en me voyant guéri, voulut me donner encore d'autres souffrances, alors qu'il blasphémait en implorant ses faux dieux, Jupiter en particulier. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, je répondais à toutes les questions qu'il me posait. Je repoussais les menaces, les promesses. Fou de rage, l'empereur ordonna qu'on m'attache au cou une ancre de fer et qu'on me jette dans le fleuve du Tibre. Mais Jésus, pour montrer son pouvoir et pour montrer que les faux dieux sont des faux dieux, envoya 2 anges pour m'aider. Les 2 anges arrivèrent et coupèrent la corde. L'ancre tomba dans la rivière et elle demeura enfoncée dans la boue. Et les anges me déposèrent ensuite sur le bord du Tibre sans qu'une seule goutte d'eau m'ait mouillé les vêtements. Ce grand miracle convertit beaucoup de païens qui m'avaient regardé le martyr. Mais Dioclétien, plus obstiné et plus aveuglé que Pharaon en Égypte, déclara que j'étais une sorcière et il ordonna que je sois transpercé par des flèches. Blessé à mort et sur le point de mourir, on me jeta comme cela en prison. Au lieu de la mort qui aurait dû normalement arriver, Dieu Tout-Puissant me fit tomber dans un sommeil paisible et je me réveillai plus belle et plus guérie qu'avant. Ce nouveau miracle mit l'empereur dans une fureur telle qu'il donna l'ordre de répéter cette torture jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Mais les flèches refusèrent de quitter les arcs. Les archers en furent stupéfaits. Certains se convertirent. Dioclétien affirma que c'était de la magie. J'étais une sorcière. J'avais fait de la sorcellerie. Mais contre le feu, je ne pourrais rien. Alors il ordonna qu'on mît le feu aux pointes des flèches. Mais ce fut sans résultat. Jésus, mon divin époux, me sauva de la torture et retourna les flèches contre les archers et 6 d'entre eux furent tués. Ce nouveau miracle entraîna d'autres conversions dans la foule qui commençait sérieusement à montrer des signes de mécontentement envers l'empereur et d'attachement à la religion catholique. Par crainte des conversions et des conséquences contre lui, Dioclétien, le tyran, donna l'ordre de me couper la tête. Alors enfin, mon âme glorieuse et triomphante monta vers le ciel et je reçus le couronne de la virginité et du martyr que j'avais mérité par cette victoire. Il était 3 heures de l'après-midi, un vendredi, comme Jésus qui était mort à la même heure un vendredi saint. Les merveilles et les miracles de Sainte Philomène. Ce glorieux martyr, soutenu par une jeune fille de 12 à 13 ans, fut récompensé admirablement par Dieu déjà dans le ciel, pour elle, pour l'éternité, mais aussi pour tous ceux qui voudront la prier et l'honorer ici-bas, car Dieu a tellement été touché du martyr et de la virginité de cette jeune fille qu'il a accordé beaucoup, beaucoup de grâce à son intercession. Quand les reliques de Sainte Philomène arrivèrent à Mugnano, ce fut une foule immense qui pendant 9 jours ne vidait pas l'église pour prier la Sainte Thaumaturge, comme on l'appellera désormais. Thaumaturge veut dire faiseuse de miracles. Il y avait là une pauvre veuve qui priait la Sainte durant toute la messe de guérir son fils qui était malade, infirme, ne pouvant même pas se tenir debout. Au moment de la messe, à la consécration, le jeune homme sauta sur ses jambes et courut vers l'urne contenant les reliques de la Sainte pour la remercier de sa guérison. À la fin de la messe, l'enfant se promena dans la ville devant des foules ravies et admiratives qui sonnèrent les cloches de toutes les églises, qui battaient du tambour et qui priaient encore avec plus de confiance, Sainte Philomène. Une pauvre mère trempa son doigt dans l'huile de la lampe qui brûlait devant l'image de la Sainte. Elle mit cette huile sur les yeux de son petit enfant qui avait une grave maladie, la variole, qui l'avait rendu aveugle et les médecins le disaient incurable. Dès que la mère eut frotté ses paupières avec l'huile, l'enfant recouvra la vue. Ce nouveau miracle émut si profondément les foules et même les incroyants qu'un athée se convertit et fut baptisé. Il se déclara croyant et fit plusieurs dons importants pour la construction d'une église en remerciement à Sainte Philomène. Quelques jours plus tard seulement, une dame amena sa fille malade au sanctuaire et coupant les boucles de la chevelure de l'enfant, elle les accrocha près de l'urne où se trouvaient les reliques de la Sainte. Apparemment, aucune réponse à ses prières. Elle retourne à la maison avec son enfant Mais à ce moment-là, l'enfant fut complètement guéri et recouvra l'usage de ses jambes. Un autre aveugle fit don d'une bague de grand prix et l'offrit comme ornement aux reliques de la sainte. Il ne se produisit rien du tout au sanctuaire, la sainte voulant éprouver sa foi certainement. Mais dès qu'il fut arrivé chez lui, ayant continué à prier le long de la route, il fut complètement guéri. Une autre jeune fille aveugle, âgée de 20 ans, que les médecins de Naples considéraient comme incurable, arriva à Mugnano pleine d'espérance en ayant entendu parler de tous ces miracles. En entrant dans l'église, elle déclara qu'elle ne quitterait pas l'endroit avant d'être guérie. Sa foi fut mise rudement à l'épreuve, car toutes ses prières semblaient vaines. La fatigue, la faim, la tentation venaient. La foi de la jeune fille ne faisait pourtant que grandir, et elle refusa de quitter l'église avant d'être guérie. On dut fermer le sanctuaire, et elle fut contrainte de se chercher un endroit dans l'église pour passer la nuit. Mais voilà qu'avant de quitter l'église, car on voulait la forcer à dormir dehors, elle perçut un faible rayon de lumière. Le lendemain, elle retourna à l'église et elle passe sa journée entière à prier. De nouveau le soir, elle voyait un peu mieux ce rayon de lumière. Le troisième jour, vers midi, elle voyait un peu plus clairement. Et le soir, elle retrouva totalement sa vue. Voilà ce que vaut la persévérance et la foi dans la prière. Les miracles de Sainte Philomène ne cessaient de se multiplier en Italie et puis maintenant en France, grâce à Pauline Jaricot, une Française qui s'était occupée beaucoup des pauvres et de propager la dévotion au rosaire. Eh bien, elle était à la mort, incurable. Tous les médecins, tous les pèlerinages même, n'avaient pas pu la guérir. Elle fut guérie à Mugnano, au pied de Sainte Philomène. Elle revint en France toute joyeuse, toute contente et toute missionnaire. C'est là le signe de reconnaissance quand on a été béni par quelqu'un de chercher à le faire aimer. Alors elle chercha à faire aimer, prier Sainte Philomène. Elle rapporta en France avec solennité des reliques de Sainte Philomène. Et elle passa à Ars. Vous connaissez Ars pour le saint patron de tous les curés du monde, le saint curé d'Ars, saint Jean-Marie Vianney. Eh bien, elle alla trouver le saint curé d'Ars en lui disant, écoutez, monsieur le curé, si vous faisiez prier Sainte Philomène, certainement que dans votre église et dans les environs, les miracles qui se sont opérés en Italie s'opéraient ici. Et elle commença à raconter la litanie des miracles qu'elle avait faits. Le saint curé d'Ars s'en fut émerveillé. Tout de suite, il décida de construire dans son église une chapelle, un oratoire, dédié à Sainte Philomène, avec les reliques de la sainte. Les fêtes principales de cet autel étaient le 11 août et aussi le 25 mai, jour où on avait découvert les reliques de la sainte. Le saint curé d'Ars, par humilité, avait une tactique, si on peut dire. Pour ne pas faire croire que c'était lui qui faisait les miracles et les conversions, il disait aux pécheurs et aux malades, « Allez demander à Sainte Philomène de vous guérir, de vous convertir. » Et quand les gens revenaient guéris ou convertis, « Oh, merci saint curé d'Ars, vous m'avez converti. Oh, merci monsieur le curé, vous m'avez guéri. » « Non, non, c'est pas moi, c'est Sainte Philomène. » Et alors les gens donnaient leur reconnaissance à Sainte Philomène et l'humilité du pauvre curé d'Ars restait intacte. Bel exemple pour nous, qui cherchons toujours à faire valoir nos bonnes actions. Pourtant, une grande tristesse va s'abattre sur l'église du Saint-Curé d'Ars. À force de prier, de jeûner, de confesser jusqu'à 18 heures par jour, de ne manger, si on peut dire, qu'un bol de lait par jour, le Saint-Curé d'Ars tombe en prêchant. Il doit s'aliter et jour après jour, ses forces diminuent et il se prépare à mourir. C'était en 1843. Pourtant, tous ses fidèles et ses confrères ne cessaient de prier Sainte Philomène. Sainte Philomène, vous avez guéri tant de malades, vous avez converti tant de pécheurs, parce que Saint-Curé d'Ars vous les a envoyés. Ne vous devriez pas, par reconnaissance, guérir aujourd'hui le Saint-Curé d'Ars pour qu'il puisse continuer à vous faire prier et à convertir les hommes? Est-ce que cette prière pouvait rester sans réponse du ciel? Le Saint-Curé d'Ars reçut l'extrême onction. Le médecin disait qu'il n'avait aucune chance et que demain matin, il serait certainement mort. Un prêtre décide de dire la messe en l'honneur de Sainte Philomène. Aussitôt après la messe, le Saint-Curé d'Ars eut comme un malaise ou une absence. Il n'entendait plus ce qu'on disait. Il ne voyait plus ceux qui étaient autour de lui. Et après quelques instants, il dit « Mon ami, je suis guéri ». Sainte Philomène lui était apparue. Sainte Philomène l'avait guéri. Maintenant, Sainte Philomène, encore plus qu'auparavant, allait opérer des miracles pour son ami le Saint-Curé d'Ars. Quand de grands pécheurs arrivaient à Ars, en essayant de le convertir, le Saint-Curé les envoyait à l'hôtel de Sainte Philomène. Voici un exemple, un des plus célèbres. Monsieur Massia, un grand homme de Lyon, un grand scientifique, se vantait d'être athée, de ne pas croire en Dieu. Un de ses amis, missionnaire, apôtre, comme tout chrétien, lui dit « Viens avec moi, Ars. Je te montrerai un curé qui fait des miracles. » Des miracles? Mon cher ami, jamais la science ne les a prouvés. Eh bien, viens, je te promets que tu verras quelque chose que tu ne regrettes pas d'être venu voir. Si tu pouvais me faire y croire, ce serait vraiment un miracle. Mais comme Ars n'est pas loin du lieu que je veux explorer pour ma science, je veux bien passer par là. Et alors, M. Messia se rendit à Ars. Et voici ce que lui-même a raconté quelque temps plus tard. Arrivé à Ars, mon ami me fit loger dans la maison de la veuve Gaillard, où nous avons partagé la même chambre tous les deux. Le lendemain matin, de bonne heure, il me dit, « Messia, veux-tu me faire plaisir? On va aller à la messe tous les deux. » Moi, aller à la messe? Mais je ne suis pas allé à la messe depuis que j'étais tout petit. Ça fait des dizaines d'années. Demande-moi tout ce que tu veux, mais pas ça. Tu viendras aujourd'hui à la messe pour me faire plaisir. C'est là que tu pourras voir seulement le curé d'Ars. Et tu jugeras par toi-même, avec ta science. Je te demande simplement de regarder avec tes yeux, de réfléchir avec ta tête. Ça me plaît pas beaucoup, franchement. Mais je vais y aller uniquement pour te faire plaisir. Après, ce sera une chose qui sera faite, on en sera débarrassé. Quand nous sommes arrivés à l'église, mon ami m'a installé sur un siège en face de la sacristie. Peu de temps après, la porte s'ouvre et le curé, revêtu des ornements pour la messe, apparaît. Ses yeux croisent les miens un instant, mais ce regard m'est allé droit au cœur. Je me sentais comme écrasé sous son regard, comme s'il lisait en moi. Je baissais la tête, confus et honteux. Durant toute la messe, je suis resté immobile, comme paralysé. Quand la messe fut terminée, j'ai essayé de relever la tête et de me lever pour quitter l'église, mais juste au moment de passer devant la sacristie, j'ai entendu ces paroles du curé. « Allez, tout le monde dehors, sortez tous !» Et une longue main, toute amaigrie, se pose sur mon bras et je me suis senti irrésistiblement attiré vers la sacristie comme par une force invisible.
De Sainte Philomène avait complètement changé ma vie. C'était uniquement pour faire plaisir à ma mère que j'allais à l'église où le Saint curé d'Ars était en train d'enseigner le catéchisme aux enfants. Sa vue me fit une forte impression et quand ses yeux rencontrèrent les miens, il me sembla qu'il brisait au fond de moi. J'avais déjà entendu dire de lui. Vous le voyez ce qui se passait dans ma conscience. On n'a plus le même. Je vous ai dit après la leçon et nous sommes amusés à faire des plaisanteries bien moqueuses sur le Saint-Curé et sur Dieu. Encore une fois, ma mère me poussa derrière la messe. Et j'étais à peine dans l'église que je voulais sortir. Quel ne fut pas mon étonnement quand à ce moment précis, la porte de la sacristie s'est ouverte pour laisser passer le curé qui se dirigea droit sur moi pour me faire signe de le suivre. Ce que je fis sans savoir pourquoi je le faisais. Je tombe à genoux, je pleure. Voyant mon émotion, le saint prêtre me dit d'aller à l'hôtel de Saint-Philomène. Dire Saint notre Père, Saint vous salut Marie. J'y vais. Ce fut l'heure de la grâce. Quelque chose d'étrange se produisit dans mon âme. Mon cœur se mit en bas si violemment que je me demandais si j'allais mourir. Je ne sais combien de temps je suis resté là. J'étais comme hors du temps. Ce que je sais, c'est quand je pouvais me relever, je n'étais plus là. Chargé, on dirait que tu t'es converti. J'ai répondu, peut-être bien. Et je l'ai quitté. Ils tentèrent encore, de toutes sortes de manières, de me ramener à ma vie méchante et perverse. Mais grâce à Dieu, j'étais protégé. Grâce à Sainte Philomène, je résistais aux occasions de péché. Maintenant, je suis religieux. Depuis 16 ans, et avec la grâce de Dieu, j'espère persévérer.
Voilà la belle histoire de Sainte Philomène, riche en miracles et en grâce. Pourquoi Dieu a-t-il tant accordé par la prière d'une si petite fille, si inconnue? Eh bien, c'est que Dieu se laisse toucher par ces deux si belles vertus, la pureté
et la charité jusqu'au martyr. Alors, comme Sainte Philomène, soyons purs, purs du péché. Fuyons tout ce qui nous souille, toute mauvaise compagnie. Et soyons pleins de charité, d'ardeur pour aimer Dieu, vivre pour lui faire plaisir, en faisant attention à ne lui déplaire en rien, même dans les petites choses, pour faire plaisir à Dieu et le consoler de tant d'âmes qui ne l'aiment pas. Ô Sainte Philomène, obtenez-nous en intercédant pour nous auprès de Dieu et de la très sainte Vierge Marie, pureté et charité ardente aujourd'hui et jusqu'à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
La vie de Saint Nicolas de Flux, protecteur et patron de la Suisse. Saint Nicolas de Flux est né le 21 mars 1417, au centre de la Suisse, dans un village appelé Saxeln, qui est dans le canton primitif d'Unterwald, là où la Suisse avait été fondée en 1291. Son papa Henri et sa maman Hermana étaient des gens simples et joyeux qui passaient leur journée entre le travail et la prière, ce qui fait qu'ils étaient très riches. Dieu les bénissait, d'après un document de l'époque. Saint Nicolas était l'aîné de la famille, mais on ne sait plus très bien combien il avait de frères et sœurs. Monsieur le curé de Stans, qui a connu Nicolas, nous raconte ceci. Le jour même de sa naissance, Saint Nicolas fut baptisé. Son enfance a ressemblé beaucoup à l'enfance de Jésus. Nicolas était obéissant. Jamais on ne l'a vu paresseux ou capricieux. Il était doux, bon avec tous et d'une tendre piété. On le surnommait déjà le miroir des enfants. Souvent, Nicolas recherchait la solitude pour penser au ciel, à l'amour de Jésus pour nous, et ensuite il aimait en parler à ses amis. Ses parents l'habituèrent à l'esprit chrétien, esprit de sacrifice, en le faisant travailler avec eux. Ce travail était varié d'après les saisons. Coupe du bois dans la forêt, montée du bétail à l'alpage au printemps, il s'occupait des vaches, les traire et fabriquer le beurre, le fromage, qu'ils iraient vendre au marché de Lucerne à plus de 30 km à pied. Mais le travail habituel de Nicolas était de garder les vaches. Quand il gardait les vaches, ça lui arrivait aussi de chanter. Mais il s'arrêtait régulièrement pour remercier le bon Dieu, pour prier, remercier de la nature et du beau pays que Dieu nous donne. Car vous le savez, la Suisse est le plus beau pays du monde. Il était toujours joyeux et respectueux, spécialement envers les prêtres, les parents et ses supérieurs. Il n'a malheureusement pas pu faire d'études, mais d'une part ses parents lui expliquaient les vérités chrétiennes et d'un autre côté, le bon Dieu, dans la prière, lui donnait une sagesse et un bon sens parfait. Jamais Nicolas ne laissait faire le mal devant lui. Il savait reprendre les gens qui acceptaient de se corriger parce que Nicolas leur montrait l'exemple. Souvent il jeûnait, ne prenant qu'un repas par jour, par esprit de pénitence. Il commença par un jour, puis deux jours, puis trois jours par semaine, et Plus tard dans sa vie, ce sera tous les jours. Il resta toujours en bonne santé. Dieu bénit la pénitence. Dieu soutient ceux qui ne recherchent sur terre qu'une chose, faire aimer Dieu et aimer Dieu de tout son cœur. Dès l'âge de 15 ans, Nicolas est soldat. Il deviendra même capitaine dans l'armée suisse. À 19 ans, il participe à la première bataille. Mais toujours, il respectera les civils, les innocents, et priera beaucoup pour la paix qui est bien supérieure à la guerre de conquête. En 1440, Nicolas a 23 ans. Le canton de Zurich s'allie aux Autrichiens qui sont ennemis de la Suisse. La guerre durera 6 ans. Les Suisses seront victorieux. Nicolas, capitaine dès l'âge de 29 ans, peut empêcher les Suisses de faire pas mal de dégâts, de razzias, de massacres. Un jour, il protégea même un couvent de religieuses. Les soldats ennemis s'y étaient réfugiés et les Suisses voulaient y mettre le feu, mais Nicolas les empêcha de faire mourir les innocents. Saint Nicolas se battait avec l'épée dans une main et le chapelet dans l'autre, ou dans sa poche au moins. Et nous, sommes-nous aussi soldats du Christ? Travaillons-nous, agissons-nous avec une main et avec l'autre main, prions-nous régulièrement durant la journée? Saint Nicolas répétait souvent à ses soldats, « Quelle honte si après avoir vaincu vos ennemis, vous ne savez pas vaincre le péché. » À 30 ans, Saint Nicolas se marie avec une fille pieuse et humble du pays appelée Dorothée, Winsling. Dorothée qui veut dire « cadeau de Dieu ». Les deux époux se sanctifièrent l'un et l'autre, en grandissant chaque jour en sainteté par la charité surtout, l'attention à rendre service et la patience. Le bon Dieu les combla de ses dons et aussi de 10 enfants, 5 garçons et 5 filles. Un d'eux deviendra prêtre. Saint Nicolas éduqua ses enfants comme lui-même avait été éduqué par ses parents. Piété, travail, joie. Les enfants étaient édifiés par l'exemple de leur papa. Par exemple, souvent, ils apercevaient la nuit une lumière dans sa chambre. Ils se rendaient compte que leur père priait une grande partie de la nuit. Ils l'entendaient parfois dire cette belle prière que vous connaissez. Seigneur, enlevez de moi tout ce qui m'éloigne de vous. Seigneur, donnez-moi tout ce qui m'amène vers vous. Seigneur, prenez-moi à moi et donnez-moi tout à vous. Saint Nicolas est surtout le saint que l'on prie pour obtenir la paix. À son époque, durant les guerres, les soldats brûlaient parfois des églises, pillaient des maisons, massacraient des innocents. Saint Nicolas allait aider les pauvres. Il consolait les éprouvés en leur montrant la valeur de la croix. Il éclairait les ignorants pour qu'ils puissent bien vivre et gagner le ciel. On l'appelait même le sage. Et lui-même était toujours en paix, jamais de mauvaise humeur, parce qu'il acceptait toujours la volonté de Dieu et qu'il s'occupait toujours à de bonnes choses. Quand on le rencontrait, il était toujours très aimable dans son accueil. Il saluait tout le monde humblement et poliment. Reprenons l'habitude de dire bonjour, de dire merci, de savoir dire s'il vous plaît, d'être reconnaissant. La politesse, c'est la fleur de la charité, dit saint François de Sales. Si l'on veut faire plaisir à Dieu, il faut donc être poli. Quand on demandait des volontaires au village, ou bien quand on avait besoin d'un service à la maison, Saint Nicolas s'offrait toujours le premier pour aider, parce qu'il savait que tout ce que l'on fait au plus petit d'entre les nôtres, c'est à Jésus qu'on le fait. Plus tard, Nicolas devint juge et chef cantonal. Parce qu'il était bon et juste, on le choisit. Et Nicolas sut mettre la paix dans bien des querelles et des bagarres, des disputes. Et nous, rendons-nous service, essayons-nous de mettre la paix autour de nous, essayons-nous d'apaiser les querelles, essayons-nous d'abord nous-mêmes de ne pas créer des querelles. Saint Nicolas de Flux, aidez-nous. Saint Nicolas de Flux est connu aussi pour ses visions. Dieu l'a favorisé de célèbres visions. Par exemple, celle-ci. Un jour, un vieillard s'approche de Nicolas en chantant une mélodie merveilleuse, d'abord avec une seule voix, puis avec trois voix. Saint Nicolas reconnut que c'était la Sainte Trinité. Puis Nicolas arrivait dans un village inconnu avec un magnifique palais. Il entre, il se trouve au pied d'un grand escalier avec 10 marches. Sur cet escalier coule jusqu'en bas de l'huile, du vin, du miel. Intrigué, il monte les marches et aperçoit une source mystérieuse, un grand réservoir d'où jaillissait très haut l'huile, le vin et le miel, à la vitesse de l'éclair, que le fracas était immense. Le réservoir avait 4 angles, et son contenu était transparent et inépuisable. Nicolas vit en bas une foule de gens qui se livraient à toutes sortes de travaux, qui couraient à gauche, à droite, mais ils étaient pauvres, malheureux, et gémissaient de soif et de faim. Les 10 marches sont les 10 commandements qui nous font monter au ciel. Le grand réservoir, c'est le Sacré-Cœur de Jésus, ouvert par la lance, source de toute grâce. Les 4 angles sont les 4 parties de la vie de Jésus. Sa vie cachée, sa vie publique et son sacrifice, sa résurrection et sa vie maintenant au ciel. L'huile, c'est la grâce du Saint-Esprit, l'esprit de douceur. Le vin, c'est le vin du saint sacrifice de la messe qui efface nos péchés. Le miel, c'est la bonté, la douceur du Sacré-Cœur toujours prêt à nous pardonner. Et tous ces pauvres gens qui meurent de faim, qui vont à gauche, à droite, sont les pauvres pécheurs, les gens qui veulent s'attacher au bien de ce monde et font mourir de faim leur âme. Alors, comme Saint Nicolas, allons souvent à Jésus hostie pour nous fortifier, pour qu'il nous purifie et pour qu'il nous donne le pain de vie qui nous aide à arriver jusque dans la vie éternelle. Le démon n'était pas content de Saint Nicolas, en doutez-vous. Quand il n'est pas content, c'est que Dieu est content. Quand il est content, c'est que Dieu n'est pas content. Saint Augustin dit que le démon n'aboie que quand nous ne sommes pas ses amis. Alors il essaya de décourager Saint Nicolas. Il voyait qu'il profitait bien des prières, qu'il progressait dans la sainteté, et il essaya de lui faire du mal par toutes sortes d'épreuves. La bonté, la piété, le bon exemple de Saint Nicolas en convertissaient beaucoup d'autres. Alors un jour, le démon, le cornu, comme on l'appelle, essaya de se venger. Nicolas et un de ses fils, Jean, avaient mené le troupeau sur les hauteurs, en haut des gorges de la rivière Melka. On entendait au loin le cor des Alpes. Pendant que Jean ramassait les fourrages, Nicolas fut empoigné par le démon qui le précipita dans les rochers. Mais grâce à son ange gardien, il ne mourut pas. Son fils dévala les rochers pour secourir son père qui était tout déchiré par les épines et les ronces, mais sans aucun mal. Alors Saint Nicolas se releva avec un petit sourire en disant « Le diable m'a rudement bousculé, mais c'est le bon Dieu qui l'a permis, que son nom soit béni. » Bel exemple pour nous. Pensons-nous à prier notre ange gardien qui nous protège? Pensons-nous à lui dire merci pour toutes les fois où il nous a sauvés? Saint Nicolas de Flux, faites-nous penser à notre ange gardien. Saint Nicolas de Flux resta juge du canton pendant 19 ans. Quand il y avait des querelles, des disputes, il faisait venir les 2 adversaires et lui s'asseyait sous un tilleul qui existe encore aujourd'hui à Obwald. Et là, il laissait parler l'un et l'autre et le jugeait selon la vérité sans jamais de favoritisme. Et à celui qui était perdant, notre saint donnait pour le consoler des fruits de son jardin, un peu comme saint Louis, roi de France. Sa devise était « Dieu, liberté, patrie ». Dieu en premier, Dieu premier servi. Liberté pour pouvoir le servir, aller à la messe, pratiquer le commandement, rester en paix avec Dieu et la patrie. Jésus a aimé sa patrie terrestre. Il a même versé des larmes en songeant au malheur qui allait fondre sur elle. L'amour de la patrie, en effet, est un commandement de Dieu, le quatrième commandement. Tu honoreras ton père et ta mère. Nos ancêtres, dans le pays, sont un peu nos pères et nos mères. Il défendait les innocents et les pauvres. Un jour, il dit à son curé, « Parce que j'ai toujours servi Dieu, le bon Dieu m'a donné en échange un esprit droit. J'ai souvent dû juger des gens, même pour des problèmes qui s'étendaient dans tout le pays, mais avec la grâce de notre Seigneur, je n'ai jamais menti, jamais trompé quelqu'un, je n'ai jamais rien fait d'injuste. » Ensuite, saint Nicolas fut plusieurs fois nommé landamman, c'est-à-dire président du canton. Mais il sentait de plus en plus fort l'appel de Dieu vers quelque chose de plus haut. Son fils, Jean, nous dit ceci. « Papa allait souvent se coucher en même temps que nous, les enfants, mais toutes les nuits, je l'ai entendu se lever de nouveau. Je l'ai entendu prier dans sa chambre jusqu'au matin, où il allait jusqu'à la vieille église voisine pour la messe. » Quel bel exemple d'un père de famille qui attire ainsi la bénédiction et le salut sur tous ses enfants et son épouse. Un jour qu'il gardait les vaches, saint Nicolas vit venir vers lui un vieillard qui chantait avec un concert de voix venant d'ailleurs. Le vieillard lui demande l'aumône. Mais quand Nicolas va lui donner quelque chose, le vieillard refuse. À ce moment, Dieu fit connaître que ce vieillard était Dieu lui-même. Et il lui dit, « Quitte ton pays. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. » C'était sa vocation. Dieu l'appelait à la vie d'ermite. Vous savez que Dieu appelle certaines personnes à vivre que pour lui, les prêtres, les religieux, les religieuses. Saint Nicolas de Flux était appelé par Dieu à cette vie d'ermite. Un autre jour, saint Nicolas travaillait dans sa maison. Il vit arriver chez lui trois personnes semblables, qui rayonnaient de bonté. Ces personnes lui disent, « Dis-nous, Nicolas, veux-tu te redonner à nous corps et âme et te mettre en notre pouvoir ?» Saint Nicolas répondit avec horreur, « Je ne me donne à personne d'autre qu'à Dieu Tout-Puissant, que je sers depuis longtemps dans mon âme et dans mon corps. Lui seul, j'adore. » Alors les trois personnes se regardèrent avec un petit sourire et lui dirent, « Puisque tu t'es donné tout entier à Dieu et que tu t'es engagé à lui pour toujours, eh bien nous te promettons que dans ta 70e année, tu seras délivré de toutes les peines de ce monde. Reste donc ferme dans ta résolution d'être à Dieu et tu porteras dans le ciel une bannière victorieuse au milieu de la milice de Dieu. » Si tu portes sur terre la croix que nous te laissons. » Une nouvelle fois, la Sainte Trinité était apparue à saint Nicolas, cette fois pour l'appeler à cette vie d'ermite. Saint Nicolas donc, en demandant la permission à son épouse et à ses 10 enfants, quitta sa famille pour suivre Dieu. Il restera depuis ce jour-là 20 ans sans manger. La Sainte Eucharistie lui suffisait. Il passa devant son village et de nuit, il s'installa dans la forêt. Il se construisit une cabane avec des branches sous un gros mélèze et quelques branches lui servaient de lit. Des chasseurs qui traquaient un chamois découvrirent sa cachette et avertirent sa famille. Saint Nicolas demanda conseil au curé pour savoir s'il fallait vivre ainsi. Et voici ce que le curé lui a écrit. Frère Nicolas, vous me dites que vous avez toujours désiré vivre sans manger pour être séparé du monde. vos joues sont creuses, vos bras desséchés jusqu'aux os. Mais j'ai compris que cela venait de Dieu. » Et voilà ce que Saint Nicolas lui répondit. Quand on sait se sacrifier, Dieu nous suffit. Je ne vis que pour Dieu. Dieu me suffit. Il passait la moitié de la nuit à prier. Des gens venaient de partout pour voir et entendre le saint. Son visage reflétait Dieu. Il se rendit à la messe au village. Et plus tard, des gens généreux lui construisirent une chapelle contre son ermitage, où un prêtre venait chaque jour pour la messe et pour le confesser. Un jour, un énorme incendie ravage la région et menace de détruire le petit village de Sarnaine. Saint Nicolas court, monte sur une colline et fait cette prière. « Ô Seigneur Tout-Puissant, mettez fin à ce fléau. Écoutez la voix d'un pauvre pécheur comme moi. Ayez pitié de nous. Voyez notre misère. Exaucez les supplications de vos enfants pour qui vous êtes morts sur la croix. » Ensuite, Saint Nicolas fit le signe de la croix et aussitôt le feu s'arrêta. Le lieu où habitait Saint Nicolas s'appelait le Ranft, c'est-à-dire le ravin. C'était le fond d'une gorge. Dans sa cabane, ou petite maison, qui collait à la chapelle, il n'avait qu'un banc pour dormir et une pierre pour poser sa tête. Il priait pour sa famille et beaucoup plus encore pour sa patrie et encore plus pour la sanctification des prêtres. Il méditait beaucoup la passion de Jésus, qui lui donnait des forces mystérieuses, et chaque jour, il disait son rosaire en le méditant. Il s'était même fabriqué un tableau avec les principales scènes de la vie de Jésus. Pourquoi les saints sont-ils devenus saints? Pourquoi tant de courage, tant d'héroïsme, de charité? Pourquoi ont-ils été vainqueurs du péché? Eh bien, le secret, c'est la prière. Celui qui prie bien, vivra bien. Car prier, c'est tendre la main au bon Dieu et à la Sainte Vierge, et ainsi il nous aide. Saint Nicolas aimait beaucoup la très Sainte Vierge Marie. Depuis tout petit, il la saluait dès le matin par l'Angélus, et il priait beaucoup de chapelets. On le représente souvent sur les tableaux avec le chapelet à la main. Il réfléchissait sur la vie de la Sainte Vierge et de Jésus pour chercher à les imiter. Voici par exemple quelques lignes d'une lettre qu'il a écrite. La très pure Vierge Marie est la reine du ciel et de la terre. La sagesse de Dieu l'a préparée bien avant sa naissance. La grâce a toujours habité en elle. Elle est toute pure, immaculée par la grâce de Dieu. Elle est la portière du ciel, celle qui ouvre les trésors de la grâce de Jésus. Saint Nicolas disait qu'il offrait tout à Dieu par Marie. C'est bien ce que vous faites chaque matin. Divin cœur de Jésus, je vous offre par le cœur immaculé de Marie les prières, les œuvres, les souffrances de cette journée. La très Sainte Vierge Marie lui est apparue une fois même pour le remercier de sa dévotion et l'on a construit une église pour rappeler cette apparition. Ainsi, soutenu par la très Sainte Vierge Marie et la Sainte Eucharistie, il pouvait facilement vaincre le démon. Dieu lui fit encore une autre grande grâce, un charisme. Il ne mangeait pas, 20 ans sans manger. On l'a espionné, on l'a observé. Durant un mois, on a entouré toute la forêt pour voir si quelqu'un ne venait pas lui apporter à manger, mais rien du tout. On rapporte même qu'aucun oiseau ne lui apportait un seul grain de blé. Pourtant, une fois, l'évêque vint le trouver et lui demanda quelle était sa vertu préférée. Monseigneur, c'est l'obéissance. Ah, très bien, alors je vous commande de manger. Mais, Monseigneur, je ne peux pas. N'avez-vous pas dit que l'obéissance est la plus grande des vertus? Très bien, j'obéis, mais vous verrez les conséquences. Et il mangea une bouchée de pain. Aussitôt, il se roulait par terre de douleur. Pendant une semaine, il fut entre la vie et la mort. L'évêque ne lui demanda pas une deuxième fois de manger. La main de Dieu était là. Des médecins vinrent d'un peu partout en Europe pour observer le prodige. On dit même que le médecin de l'empereur d'Autriche, le docteur de l'empereur d'Allemagne, vinrent le trouver. Mais aucune explication naturelle. Si l'Eucharistie a soutenu corporellement Saint-Nicolas, combien plus notre Seigneur va nous soutenir spirituellement. C'est par bien des prières et des sacrifices que les saints se sont corrigés et sanctifiés. Alors tous, nous pouvons devenir des saints. Les deux amis étaient Jésus et Marie. Ils l'ont puissamment aidé. La Sainte Vierge l'assiste souvent de façon invisible. Et Jésus, le pain d'effort, la vraie vie, rassasier son âme pour l'aider à porter sa croix avec lui. Le corps de Saint Nicolas n'avait même plus besoin de boire ou de manger. Il était déjà comme au ciel, soutenu par Dieu dans son âme. On lui demandait un jour, « Père Nicolas, qu'est-ce que veut dire « Donnez-nous notre pain quotidien » ?» Saint Nicolas répondit, « C'est le pain vivant de l'Eucharistie. Là est caché, il faut le croire, la grâce du Dieu Tout-Puissant. Dieu se cache par sa toute-puissance dans une petite hostie. Le pain subit la transsubstantiation. Il existe selon les apparences, mais Dieu a pris sa place. Il cesse d'être pain, tout en gardant l'aspect. Dieu nous donne son corps et son sang en vrai Dieu et en vrai homme, mais d'une façon invisible. Au moment où le prêtre, quel qu'il soit, consacre l'hostie à la consécration, avant d'élever l'hostie, Dieu prend la place du pain et devient notre pain quotidien. Vous comprenez l'importance de bien prier au moment de la consécration. Un jour qu'il était à la messe, il vit Jésus avec ses mains pleines de trésors, qui cherchait à les distribuer. Mais beaucoup de ces trésors étaient perdus, car personne ne venait les lui demander. Si nous assistions plus saintement et plus souvent à la messe, nous aurions bien plus de facilité pour sauver nos âmes, aussi pour nos biens temporels. Un autre jour, encore pendant la messe, il vit un grand arbre au milieu de la chapelle, qui devint énorme. Sur ses branches se développaient des fleurs magnifiques qui s'inclinaient doucement sur la tête des personnes présentes dans la chapelle. Certaines de ces fleurs se fanaient aussitôt qu'elles touchaient la tête. Voici ce qu'il raconte. L'arbre, c'est l'image des bénédictions qui se répandent si richement pendant la Sainte Messe. Les grâces sont comme des fleurs qui se fanent sur les âmes froides, tièdes, distraites, mais qui conservent toute leur vie dans les âmes unies à Dieu. Il disait qu'en communion, on reçoit avec les mains jointes ce que Jésus a gagné pour nous avec ses mains clouées à la croix. On sent parfois un parfum suave autour du sein après la communion. Il disait « Toute mon âme est remplie de consolation du ciel et je nage dans un océan de bonheur. » Ceci est aussi possible pour nous, mais à deux conditions. La première, c'est qu'on se prépare par une vie plus sainte durant la journée et avant la communion, durant la messe, en lisant bien les prières de l'Église, inspirés du Saint-Esprit, qui sont dans notre missel. Ensuite, en faisant ce qu'on appelle l'action de grâce, après avoir communié, rester quelques minutes en adoration, en écoutant Jésus, en lui parlant, en lui demandant pour nous, pour d'autres. Les saints disent que les minutes après la communion sont les minutes les plus importantes de la vie. Saint Nicolas ne refusait rien à Dieu, Dieu ne lui refusait rien dans les prières. Vous rappelez qu'il avait réussi à éteindre un incendie d'un seul signe de croix. La Suisse n'était pas toujours dans la fête et dans la joie. Après les guerres des confédérés contre Charles le Téméraire, on se disputa sur l'argent et sur le butin qui avait été pris. C'est souvent comme ça. En 1481, à Stans, une assemblée appelée la Diète se réunit, mais personne n'arrivait à se mettre d'accord. Alors le curé de Stans court chercher Saint-Nicolas. Le 22 décembre, Saint-Nicolas se met en route pour Stans. Il arrive à la Diète. Sa sainteté, son autorité, ses paroles pleines de paix apaisent les querelles. Il recommande aux Suisses de ne pas faire des guerres de conquête, mais de se garder les terres que la Providence leur a données, avec les limites naturelles, les montagnes, les cours d'eau. Puis il leur dit d'accepter dans la Confédération Fribourg et Soleure, car, dit-il, ces deux cantons vous apporteront un jour d'éclatants services. Tous se réconcilièrent et les jours suivants, pendant un mois, les visites continuèrent au Flueli pour apporter des cadeaux de remerciement à notre saint protecteur. La joie et la paix étaient revenues dans notre beau pays. Saint-Nicolas a écrit plusieurs lettres pour remercier les cantons de lui avoir fait des cadeaux suite à cette paix. Voici une lettre qu'il écrit au canton de Berne. « Je vous salue au nom de Jésus et je vous souhaite toutes sortes de biens et à moi pour récompense dernière le Saint-Esprit. Je vous remercie de votre don bienveillant. J'y vois une preuve de votre amour qui me réjouit plus que le cadeau lui-même. » Ayez soin de vous maintenir dans la paix et dans l'union des cœurs parmi vous tous, car vous savez combien cela est agréable à Dieu, de qui viennent toutes choses. Quand on vit selon Dieu, on garde toujours la paix. Protégez les veuves, les orphelins. Si dans le monde il vous arrive du bien, remerciez le bon Dieu pour qu'il vous en donne la continuation dans le ciel. Effacez les vices publics, exercez la justice. Donnez à chacun ce qui lui est dû. Gravez profondément dans vos âmes le souvenir de la passion de Jésus-Christ. Et vous en ressentirez de la consolation dans les souffrances. En voyant que Jésus aussi a souffert, il vous donnera le courage de supporter tout ce que vous aurez à souffrir. Il y a des personnes que le démon tente et qui ont des doutes sur la foi. Pourquoi douter, dit-il, puisque la foi d'aujourd'hui est la même que la foi d'il y a 1500 ans. Si le malin, le démon, vient vous tenter, résistez avec courage, en priant. Que le Seigneur soit avec vous, signé Frère Nicolas. Vous voyez que Saint-Nicolas était très simple, il était un homme comme les autres. Pensons-nous aussi souvent à Jésus durant la journée. Il faut vivre non seulement pour lui, mais avec lui. Que penseriez-vous si votre maman, votre papa ne vous parlait jamais, ne faisait aucun cas de vous, sauf le dimanche, pendant une heure, à la messe? J'espère que ça n'arrivera jamais. Alors pourquoi faisons-nous la même chose avec Jésus? Jésus est toujours au milieu de nous, en nous. Il nous aime, il pense à nous, il reçoit nos sacrifices, nos prières, nos joies. Disons souvent chaque jour, « Jésus, je vous aime, je vous offre ce sacrifice, je fais telle chose par amour pour vous. Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Jésus, je ne veux pas vous offenser, Jésus, je vous aime. » Ou d'autres prières semblables. Saint Nicolas de Flux tomba gravement malade. Durant une semaine, il souffrit atrocement dans ses os, mais avec une grande patience, un grand silence, offrant tout cela à Dieu. Et le 21 mars, jour de son anniversaire, il rendit sa belle âme à Dieu. Quelque temps plus tard, il apparut dans le ciel, comme Dieu lui avait prophétisé, avec un étendard blanc dans la main droite. Depuis ce jour-là, Saint Nicolas ne cessa de protéger la Suisse et d'accorder des grâces, surtout des grâces de paix. Paix dans la famille, paix dans la patrie. Vous savez que c'est lui qui nous a protégés des deux premières guerres mondiales. Le fera-t-il encore pour la suite? Cela dépend beaucoup de nos prières, à Dieu, à Notre-Dame et aussi à Saint-Nicolas. Voici la belle histoire du 13 mai 1940 qui montre la puissance d'intercession de Saint-Nicolas. En 1940, la guerre mondiale faisait rage dans presque toute l'Europe. Hitler avait prévu d'envahir la Suisse à 2h du matin, la nuit du 12 au 13 mai, date anniversaire de l'apparition de Notre-Dame à Fatima. L'état-major suisse a réussi à intercepter cette information. Aussitôt, le général de l'armée, le général Guisan, fait toutes les écoles et tous les couvents du pays pour faire prier. Et il fait prier surtout les enfants, croyant que la prière des enfants touche le cœur de Dieu et le cœur de Notre-Dame. La nuit, à 2h du matin, il y avait 1 500 000 soldats sur les frontières suisses, prêts à rentrer et à dévaster notre pays. Ils reçoivent l'ordre de mettre les moteurs en marche, avions, tanks, camions, motos. Aucun moteur ne put se mettre en marche. L'état-major ordonna de vider tous les réservoirs et de mettre une autre sorte de carburant, pensant que ça venait de là. Mais aucun moteur ne put se mettre en marche. Et dans la région de l'Istal, dans le nord de la Suisse, une grande main lumineuse se promenait dans le ciel. C'était la main de Saint Nicolas. C'était l'intervention de la Sainte Vierge qui a empêché les soldats d'envahir notre pays. Voyez combien les saints peuvent obtenir encore plus maintenant qu'ils sont dans le ciel. Alors, chers amis, imitons Saint Nicolas, imitons son amour pour la Sainte Eucharistie, pour la Sainte Vierge, pour la paix, pour la charité, pour le détachement des biens de ce monde. Et pensons avec reconnaissance à tout ce qu'il a fait avec nos ancêtres pour notre pays. Si nous vivons en paix, si notre pays est un pays riche, si nous sommes libres, c'est grâce à eux. Sachons être reconnaissants, sachons les prier, surtout Saint Nicolas, pour qu'il continue à nous protéger et surtout qu'il reconvertisse notre pays, passé maintenant pour une bonne partie au protestantisme et à l'indifférence religieuse. Prions-le qu'il fasse notre pays de nouveau un pays franchement catholique.